بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاء الإسلام 15 minutes pour comprendre الفاتحة. Hier, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on avait expliqué l'importance de comprendre le Coran d'une manière générale, l'importance surtout de comprendre les versets que nous lisons au quotidien à travers la Salah. Et on avait vu que le chapitre qui revenait le plus souvent dans la lecture journalière d'un musulman, et également le chapitre que, on va dire, presque 99% de la population musulmane connaît par cœur, c'est Suratul Fatiha. Et en même temps, ce Suratul Fatiha, composé de 7 versets, c'est un surah extrêmement puissant. C'est un surah extrêmement riche en enseignements par rapport à l'unicité d'Allah, par rapport au ahkam, par rapport à la confiance en Allah, par rapport au retour auprès d'Allah, par rapport au concept de la résurrection, par rapport aux invocations, par rapport au droit chemin et au mauvais chemin. C'est-à-dire, c'est un surah qui est jami', c'est un croyant. Quelqu'un qui lit le Coran a compris le sens d'Al-Fatiha et il tient les leçons de chaque verset d'Al-Fatiha et il arrive à le mettre en pratique dans sa vie. Masha'Allah, ce sera quelqu'un de bien guidé. Maintenant, nous on veut devenir ce musulman qui lorsqu'il lit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, jusqu'à là, il ressent la grandeur d'Allah. Il ressent qu'est-ce que ça veut dire Rabb al-Alamin. Il ressent qu'est-ce que ça veut dire Malik Yawmiddin. Il ressent qu'est-ce que ça veut dire avant ça Ar-Rahman Ar-Rahim. Ressentir la grandeur d'Allah quand on lit les versets qui sont les droits d'Allah. Et ensuite, quand je vais lire Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, je veux que quand je lis ou quand j'entends l'imam lire Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, je ressens dans Iyaka na'budu, oh Allah, c'est uniquement toi que j'adore. Oh Allah, personne ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Ma position debout, oh Allah, c'est ibada pour toi. Ma position recours en génuflexion, oh Allah, c'est pour toi. Ma position de sujoud, de prosternation, oh Allah, c'est pour toi. Vraiment ressentir cet amour d'Allah quand je lis Iyaka na'budu. On va voir, à chaque fois on dit on va voir, mais Allah seul sait si on pourra le faire. C'est tellement, on ne peut pas résumer Al-Fatiha en quelques jours, ce serait respectueux, mais juste une petite approche, un aperçu du sens des versets. Quand je lis Iyaka, Allah Akbar, les termes utilisés par Allah Rabbul Izzah, ce sont les paroles d'Allah, ce sont les termes. Sur le plan grammatical aussi, là ça nécessite une petite connaissance un peu de la langue arabe, sur le plan grammatical, c'est de l'or, c'est du diamant. C'est vraiment ce qu'il y a de plus parfait, tout à fait normal, c'est la parole d'Allah. Le fait de commencer par Bismillahirrahmanirrahim et non pas de dire, et ne pas citer le verbe qui est caché dans le verbe qui est sous-entendu, pardon, dans Bismillah, là aussi il y a une sagesse. Bref, en même temps, à notre niveau, ça va être, c'est-à-dire, on aura une compréhension en fonction de notre approche de la langue. Maintenant, si en plus de ça, quelqu'un il connaît un peu la langue arabe, il ne peut que s'émerveiller en voyant la construction des versets d'Al-Fatiha, et pareil pour tous les versets du Coran, bien sûr. Mais là, c'est quelque chose qu'on maîtrise, c'est quelque chose qu'on connaît, par cœur. Je veux être ce musulman qui, lorsqu'il va lire « Wa iyyaka nasta'in », il a cette conviction, ce yaqin, même en dehors de la salah, que « Wa iyyaka nasta'in », « Oh Allah, c'est auprès de toi que je cherche secours et refuge ». C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation de la vie, n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté, je sais, oh Allah, que c'est auprès de toi que je vais trouver l'aide. Je vais trouver le secours, je vais trouver la nusra. Et ça, ça doit me renforcer dans la vie de tous les jours. Ça ne doit pas se résumer à une simple lecture. Ça ne doit pas se résumer à une prière où j'écoute, où j'entends le imam lire ses versets, mais je pense à autre chose. Ou alors j'écoute, mais sans vraiment réagir. Il doit y avoir une interaction entre ce que je lis ou j'entends et ce qui se passe dans mon cœur, ainsi de suite jusqu'à la fin des versets. Alors tout d'abord, avant de commencer par Alhamdulillah et Rabbil Alamin, le verset qui nous intéresse c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce qu'il y a divergence, on ne va pas rentrer dans les divergences. Est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de Fatiha ou non? La majorité des savants sont d'avis que le Basmala ne fait pas partie de la Fatiha, mais on le lit avant chaque Fatiha, avant de dire Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Donc si on essaie d'analyser Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en général, en français, on traduit par au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux. Mais dans cette formule, il y a un verbe, il y a le verbe qui est mahdouf. Mahdouf en arabe, ça veut dire que c'est sous-entendu. Quand je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire, la vraie traduction c'est, je commence par le nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux. La phrase mahdouf, taqdirou, c'est abtadi'u, je commence par le nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux. Et les savants disent, quelle est la hikmah, quelle est la sagesse dans le fait qu'Allah Azza wa Jal a commencé la basmala par Bismillah et non pas par le verbe qui a été sous-entendu. Il dit que déjà ça c'est At-tabarruk bi taqdim ismillah azza wa jal. C'est de démarrer directement par le nom d'Allah, sans que le nom d'Allah, sans que avant Bismillah, il y a le verbe. C'est un petit peu technique, ça c'est un petit peu technique, mais c'est-à-dire que le but c'est qu'on commence direct par le nom d'Allah, quitte à mettre sous-entendu le verbe qui va articuler, qui va donner le sens à cette phrase. Les savants disent également que quand il y a, alors c'est vraiment de la grammaire, on avait dit qu'on n'entre pas dans les détails, quand il y a un verbe sous-entendu qui doit venir, mu'akhiran, qui doit venir après, ça veut dire que ça a une connotation d'unicité. C'est-à-dire que quand je dis, je commence par le nom d'Allah, il y a une notion d'unicité, d'exclusivité. Je commence uniquement par le nom d'Allah et aucun autre qu'Allah. Abtadi'u bismillah, je commence par le nom d'Allah et par rien d'autre en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est le sens de l'unicité d'Allah qu'on retrouve dans le Basmala, Bismillah, Rahman, Rahim. Et le mot Allah, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. Ismullah, Rabbul Alamin, la yusamma bihi ghayru. C'est un nom qui est réservé à Allah. Le nom Allah, c'est un nom qui est réservé à notre Seigneur, notre Dieu. C'est-à-dire, aucune créature ne peut porter ce nom. Maintenant, les savants, ils expliquent que Allah, c'est, si on décortique le l'arvul jalala, c'est Al-Ilah. Et puis, ça a été collé en Allah. Al-Ilah, c'est-à-dire le Dieu. Celui qui, et Al-Ilah, ça vient de Al-Ma'lou, celui vers lequel on s'oriente, on fait les adorations. C'est-à-dire, dans le nom d'Allah, on ne peut pas expliquer le nom d'Allah en quelques instants, dans le nom d'Allah, il y a la notion de uluhiyya, la notion de culte, la notion d'adoration. Toutes les actes d'adoration vont uniquement vers Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Vous remarquez que dans ces deux mots, Ar-Rahman et Ar-Rahim, on retrouve les mêmes lettres. Le Ra, le Ha, le Mim. C'est ce qu'on appelle en arabe des racines. En français aussi des racines. On retrouve la racine qui retourne vers le mot Ar-Rahman. Et Rahma, c'est la pitié, c'est la clémence, c'est la miséricorde. Déjà, il faut savoir que, quelle que soit la langue, on ne pourra jamais traduire fidèlement l'arabe. Impossible. Que ce soit le français, utiliser l'anglais, l'espagnol, quelle que soit la langue, aucune langue ne donnera la précision et la profondeur de la langue arabe. Donc, on ne pourra jamais avoir une traduction qui représente 100% le sens de la langue arabe. Donc, et voyez la richesse de la langue arabe, subhanallah. En arabe, il y a ce qu'on appelle, là, c'est technique, des shems. C'est-à-dire, Abdul Malik connaît bien c'est quoi des shems. C'est-à-dire, c'est des formules articulateurs qu'on va utiliser pour construire des mots à partir d'une racine. Et en fonction de ces shems, c'est comme des moules. D'accord ? On prend une racine et on va voir de quelle façon on va l'articuler. Et dans chaque manière d'articuler, il y a une connotation, il y a un sens. Et les savants disent, dans Ar-Rahman, c'est selon le Shem Fa'lan. Et pourquoi c'est selon ce Shem? Parce que ce Shem, ce modèle-là, il y a de l'ala si'a. Quand on utilise cette manière de prononcer le mot avec an, un mot avec an, ça veut dire c'est C'est la connotation de Assia, de quelque chose qui se fait énormément. Donc quand on dit Ar-Rahman, c'est Allah qui est très clément. Il y a que la rahma d'Allah, elle est vaste, elle est gigantesque. Allah est extrêmement clément envers ses créatures. Et dans le deuxième sifat, pardon, dans la deuxième qualité d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim, c'est selon le shem fa'il. Remarquez, Rahim, c'est comme fa'il. Bref, c'est un shem qui est utilisé pour wuqu'ul fi'l. Quand on veut montrer que l'action, elle arrive, elle atteint son objectif. C'est technique. On avait dit qu'on n'entre pas dans les détails. Mais mes chers frères, c'est tellement beau. L'arabe est tellement magnifique. Et le Coran est au-dessus de tout. On a besoin parfois de connaître un petit peu la perfection des ayats qu'on connaît par cœur et qu'on lit plusieurs fois par jour. Quand on utilise Rahim selon le shem fa'il, ça veut dire que l'objectif est atteint. La chose parvient, c'est-à-dire ça se concrétise. C'est-à-dire que la rahmat d'Allah, elle atteint les marhoum, les personnes qui profitent de la clémence, de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire que Allah, sa rahma, elle atteint les personnes, elle atteint ses créatures. Donc les mufassirin disent que, voyez, dans Bismillah, Rahman, Rahim, le terme rahma, clémence, pitié, miséricorde, comme on peut le traduire en français, il est décliné de ces deux façons. Et Ar-Rahman, c'est un sifat d'Allah et qui prouve ce qu'Allah fait. Qu'Allah, il envoie sa bénédiction sur ses créatures. Et Rahim, autre qualité, autre sifat d'Allah, qui prouve que la clémence d'Allah, elle parvient à ses créatures. Et donc en français, on le traduit par très clément et très miséricordieux. Et petit détail, petit mas'ala, quand on parle de clémence, de pitié, de miséricorde, quand on parle d'une créature, par exemple, si dit quelqu'un a de la pitié pour une autre personne, parfois ça peut être perçu comme de la faiblesse. Par exemple, j'ai pitié pour quelqu'un qui est là, qui est en train de pleurer, c'est comme si qu'il y a une faiblesse. Ça veut dire que j'ai des sentiments. Ça veut dire que je peux être affecté par la détresse de quelqu'un. Et là, on comprend que ce genre de comportement, d'attitude, ce sont là des attitudes de créature. Et on ne peut pas dire qu'Allah a, c'est-à-dire Allah a des sentiments, ou Allah a un faible, ou Allah a une faiblesse par rapport à telle demande. Non. Ce qui prouve bien, les savants expliquent que, voyez, le mot rahma qu'on utilise pour un être humain, ben c'est une connotation propre à l'homme, au makhlouqat. Et lorsqu'on utilise rahma pour Allah, Rabbul Izzah, pour le Créateur, c'est le même mot que les savants ils expliquent par le terme lafz mushtarak, un mot commun entre la créature et le Créateur. Mais quand on parle d'Allah, c'est la connotation de la perfection, c'est la connotation du divin, c'est la connotation qui est propre à Allah, dans lequel il n'y a aucun naqs, il n'y a aucun manquement, il n'y a rien d'inférieur, il n'y a aucun signe de faiblesse. C'est cette règle on retrouve dans le verset laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est comme Allah, il n'y a rien qui ressemble à Allah. Même s'il y a un terme qui est utilisé pour les hommes et le terme utilisé pour Allah, le terme utilisé pour les hommes, c'est par rapport aux faiblesses de l'homme, mais le même terme utilisé pour Allah, c'est incomparable. C'est kama yaliqu bihi azza wa jal, comme cela appartient à Allah, Rabbul Izza. Donc, il n'y a pas de tashabuh, il n'y a pas d'imitation, il n'y a pas, hein, comme parfois il y a des courants, des personnes qui pensent qu'on n'a pas le droit de dire qu'Allah il est clément parce que ça c'est quelque chose de propre aux hommes. Non. Le mot là, Rahman, Rahim, c'est propre à Allah Azza wa Jal et propre à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Le premier verset, on va se limiter, Inch'Allah, au premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes. Quand on dit Alhamd, Ha, Mim, Dal, ça également c'est un terme qui est spécifique à Allah, qui est spécifique au Créateur. Pour l'homme, on va dire Shukr. On va dire par exemple Ashkurun Nas, Ashkurukum, je vous remercie. Pour une créature, on utilise Shukr. Pour le Créateur, on utilise Hamd. Parce que dans le terme Hamd, il y a la reconnaissance, mais il y a également At-Ta'zim ou Al-Muhabba.
Il y a également l'amour sans limite. Parce que quand on dit Hamd, c'est les louanges pour celui qui est le créateur. Et donc, il y a At-Ta'zim. À travers le mot Hamd, il y a, on ressent la grandeur d'Allah et on ressent l'amour qu'il y a de le cœur de la créature pour le créateur. C'est pour ça que les savants disent que le terme Hamd, ce n'est pas uniquement les louanges. Parce qu'on peut dire également que quelqu'un fait les louanges d'une autre personne, mais il peut faire ses louanges juste en le remerciant, en mettant en avant ses qualités. Mais quand on utilise le mot Hamd pour Allah Azza wa Jal, c'est en même temps, on fait les louanges avec la connotation de ibadah, avec la connotation d'adoration. En même temps, je dis toutes les louanges reviennent à Allah, et dans mon cœur, je suis éternellement reconnaissant, et j'exprime mon amour illimité pour Allah, le Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, et je ressens sa grandeur dans mon cœur. Tout ça, c'est de le mot Alhamdou. Et Alhamdou, les savants disent également, quand on dit Al, le Alif Lam, en arabe, on appelle, en français, on appelle ça l'article. Al, c'est comme le, la, l'apostrophe. Quand on met Al avant Hamd, c'est Al-Istighraq, c'est-à-dire, grammaticalement, on appelle ça de le balara, quand on met Alif Lam avant le Muhammad, c'est-à-dire que ça veut dire, c'est pas uniquement les, c'est l'intégralité. C'est pour ça qu'en français, ils ont traduit Alhamdou, toutes les louanges. C'est-à-dire, l'intégralité des louanges, tout, ça retourne vers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il vivait des bienfaits, il vivait des moments de bonheur, ou alors on lui annonçait une bonne nouvelle, ou il y a quelque chose de positif, qu'est-ce qu'il disait? Alhamdulillah illadhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Louange à Allah, toutes les louanges reviennent à Allah, c'est par ses bienfaits que toutes les bonnes choses ont lieu. Et lorsqu'il y avait un malheur, quelque chose de négatif, il disait Alhamdulillah ala kulli hal. Toutes les louanges reviennent à Allah, quelles que soient les situations. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, que ce soit une situation de bienfait ou une situation entre guillemets de malheur, c'est-à-dire d'épreuve, de situation difficile, tout revient à Allah et tous les louanges, les remerciements reviennent à Allah qui est Al-Hakim, qui est sage et qui est juste dans toutes ses décisions. Alhamdou lillahi. On avait vu que Allah, on avait vu, c'est le nom propre à Allah Azza wa Jal, à notre Seigneur, personne n'a le droit d'avoir le même nom que Allah, bien sûr. Et vous voyez, entre Allah et Lillah, il y a une différence. Allah, c'est Alif, Lam, Lam, Ha. Lillah, il y a un Lam avant. Et Li, en arabe, ça veut dire pour. Hein, c'est les arabophones, mashallah. Li, ça veut dire pour. Et quand on dit Lillah, si on traduit en français, c'est pour Allah. Mais le sens profond de Lillah, c'est pour et uniquement pour Allah. Donc vous voyez comment est-ce que tout est orienté vers Allah dans le premier verset. Alhamdou. Tout, c'est pas uniquement on fait une louange, c'est Alhamdou, toutes les louanges. Lillah, c'est pour Allah et exclusivement pour Allah. Ces louanges, avec la connotation d'adoration, de reconnaissance, d'amour sans limite, c'est pour Allah et on n'a pas le droit d'avoir de tels sentiments pour autre qu'Allah. À travers ce verset, on ressent vraiment notre dépendance envers le Créateur, notre reconnaissance envers le Créateur et notre situation de créature. Donc théoriquement, Alhamdulillahi, ça doit déjà faire vibrer nos cœurs. Vous voyez, là, on a résumé, mais vous voyez le sens profond qu'il y a dans chaque article, dans chaque particule qui compose ce premier verset. Et nous, Alhamdulillah, on le dit à longueur de journée, oui, non, dans le dhikr, Alhamdulillah. Si vraiment on réfléchit la profondeur du sens de Alhamdulillah, vraiment on ressent la grandeur d'Allah dans nos adhkar. Donc Alhamdulillahi, on va compléter avec Rabbil Alamin. Rabb, le mot Rabb, c'est comment ils traduisent en français Seigneur, ou parfois ils traduisent également par pourvoyeur. Alors, il faut savoir, là aussi il faut rentrer un petit peu dans la langue arabe, il y a des fois où on utilise le mot Rabb pour un être humain. Par exemple, quand on dit Rabbul Bayt, Rabbul Bayt c'est qui? C'est le Lot avec un H, c'est-à-dire le maître de maison, on va dire. Rabbul Bayt, c'est le propriétaire de la maison. Pour ça, il dit que quand on est chez quelqu'un et qu'on doit faire la prière en congrégation, celui qui a priorité pour faire imam, c'est Rabboul Bayt. On ne peut pas mettre Rabboul Bayt derrière et quelqu'un qui passe devant. Sauf si c'est lui qui dit, toi tu fais imam parce que lui, il connaît le Coran ou autre chose. Mais Rabb, c'est un terme qui est utilisé également pour les êtres humains. C'est un terme qui peut être utilisé pour l'être humain et qui est utilisé pour Allah. Mais dans la connotation divine, quand on dit Rabb, les mufassirins disent, quand on dit Rabb, il y a Al-Khalq, Al-Mulk et... On écrit ça quelque part. Al-Khalq, Al-Mulk et Al-Tadbir, si je ne me trompe pas. Troisième thème, je ne retrouve pas. Mais normalement, c'est Al-Khalq, Al-Mulk et Al-Tadbir. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit Rabb, le Seigneur, quand on dit Allah, c'est le Seigneur. C'est-à-dire, avant tout, c'est le Créateur. Premièrement, première qualité. Deuxièmement, quand on utilise Rabb pour Allah, c'est que c'est le Malik, c'est le Maître. C'est lui qui commande. Et quand on dit Rabb pour Allah, il y a le sens de At-Tadabbur. At-Tadbir, c'est-à-dire, c'est Allah qui organise tout, c'est Allah qui gère tout, tout revient vers lui concernant tout ça. Donc, quand on dit Rabb, et avec Rabb, c'est vraiment celui qui dirige, qui a créé, qui dirige, qui contrôle et qui prend les décisions. Vous voyez comment ce terme est ajib. Rabb est composé de combien de lettres? Deux lettres. Rababa, deux. 3 et puis on rajoute 2 parce que avec ta J sur le B. Rab, 2 lettres. Et dans le mot Rab, il y a que Allah, c'est le créateur de ce qui va suivre après le mot Rab. Rab de quoi? Rabbin Nas, Alhamdulillahi Rabbin Nas, Alhamdulillahi Rabbil Malak, les anges, Alhamdulillahi Rabbis Samawat, quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Ard, non, Alhamdulillahi Rabbil Allah, 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 Alamin. C'est-à-dire que ce qui va venir après, ça veut dire que Allah, il a créé tout ça. Allah, il est le maître de tout ça. Allah, il décide, il prend les décisions pour tout ça. Allah, il dirige tout ça de A à Z, du début jusqu'à la fin, depuis Kun jusqu'à la destruction. Allahu Akbar. Et qu'est-ce qui vient après Rabb? Al-Alamin. Allah, Allah, Allah. Al-Alamin, comment on traduit en français? Les mondes. C'est quoi les mondes? Est-ce qu'en français, ça, on parle de les mondes quand on fait histoire à l'école ou géographie? J'aimerais, aujourd'hui, on fait la géographie des mondes. Tu crois fumer où là? Les mondes, il y a le monde. Il y a la Terre, il y a l'hémisphère nord, sud, quel continent tu veux connaître? Ne me parle pas des mondes, il n'y a pas les mondes là. Rabbul Alamin. Et Alamin, c'est le pluriel de Alam. Alam, c'est un monde, un univers. Al-Alam, la plus belle définition de Alamin, ça c'est magnifique, c'est Kulluma Siwallah. Tout ce qui existe, tout, même le mot existe, il n'y a pas besoin. Tout en dehors d'Allah. Tout en dehors d'Allah, c'est Alamin. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait partie de Alamin. Jibril, Alamin. Et ainsi de suite, toutes les créatures, ins, djinn, malak. Sama, ciel, ard, la terre, shams, le soleil, qamar, nujum, toyur, ashjar, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne voyez pas, ça s'appelle al-alamin. C'est les makhlouqats d'Allah Azza wa Jal. Kulluma siwallah, tout ce qui existe en dehors d'Allah, c'est alamin. Donc, quand on met Rab avant là, c'est puissant. Il n'y a que Allah, c'est le créateur de tout ça. Allah, c'est le maître de tout ça. Allah, c'est celui qui dirige, qui contrôle tout ça. Depuis les 7 cieux, Ajib, la grandeur des cieux, jusqu'à une molécule, jusqu'à un atome, jusqu'à une petite cellule, jusqu'à un globule blanc, un globule rouge, n'importe quoi, de plus petit, tout ça, ça fait partie de Alamin, de tout ce qu'Allah a créé. Et Allah, celui qui dirige tout ça. Donc, mes chers frères, quand je lis Abdul Malik, quand on lit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Akbar, je dois me souvenir de quoi? Alhamd, toutes les louanges, oh Allah, c'est pour toi et uniquement toi, oh Allah mon Dieu, je t'aime sans limite et je proclame ta grandeur, je proclame que je suis ta créature, tu es mon créateur. Alhamdulillahi Rabb, oh Allah, c'est toi le maître, le Seigneur, le pourvoyeur qui dirige tout et Al-Alamin, tout ce qui existe. Et moi, je fais partie de ça. On est tous, on t'appartient et on retourne vers toi. Ça, c'est ce qu'on doit ressentir. Ça, ça c'est ce qu'on appelle vivre le Coran. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre une salah. C'est-à-dire que chaque mot, chaque phrase, on essaie de comprendre le sens et ressentir la beauté, la grandeur, la puissance, la profondeur des versets. Quand je les maintenant, dites-moi, qu'Allah nous pardonne, qui peut rester insensible? Qui peut rester déconcentré dans la salah maintenant? Si quand je commence ma salah, je pense à tout ça, maintenant je comprends ce sahaba lorsqu'il a une flèche. Qui connaît l'histoire? Il a dit aux gens, aux autres qui étaient autour de lui, pour enlever la flèche, attendez, laissez-moi faire deux raka'at de salah, deux unités de prière. Et quand je fais la salah, quand vous voyez que j'ai commencé, enlève la flèche. Casse pas la tête. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit que ne vous inquiétez pas. Enlève la flèche. Je ne vais rien ressentir. Nous, si par exemple, un petit, je ne sais pas moi, un petit brindis, là, rentre dedans un morceau de bois pour tirer, on crie l'assassin. D'accord? Et là, c'est une flèche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une flèche dans la jambe. Ça n'arrive pas tous les matins. Pour enlever ça, il a dit, pas besoin d'anesthésie, pas besoin. Je ne sais pas quelle était l'histoire. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Comment on faisait dans la guerre? Khamr. C'est qui l'alcoolique là? Le grand spécialiste. D'accord? On donnait à boire jusqu'à ce que la personne était sous, ivre, et puis la personne était dans un genre de, je ne sais pas si ça s'appelle coma éthylique ou autre chose. Puis là, on pouvait enlever. On pouvait couper, on pouvait cautériser, brûler ou amputer la protège jusqu'à la personne était comme anesthésiée. Sahaba dit non, moi je ne touche pas ça. Abaden, bois pas. Même si c'est pour ma survie. Dit mais. Vous voulez m'anesthésier? Vous voulez que mon corps se déconnecte de ce monde? Khalli usalli. Je fais ma prière et je vais me déconnecter de tout ce que vous voyez. Mes cinq sens seront plus là, je serai avec Allah. Hajib. Alors comment quand je fais ça là? La tête il crade, la fait là, il pense toute sa affaire. Allah Akbar, qu'Allah nous pardonne. Nous-mêmes nous connaissons notre état, moi-même en premier, comment on est déconcentré, comment on manque de respect envers Allah quand on est debout auprès de lui. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Voilà, on écoute l'imam dire il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Je suis en train de penser Masterchef, je suis en train de penser Bones, je suis en train de penser Paranormal Activity, je suis en train de penser je ne sais pas quelle série, je sais pas toutes les bêtises que les gens regardent. Qu'Allah nous pardonne. L'objectif c'est quoi? C'est de le ramener vers la concentration, la dévotion dans la salah, la concentration, la méditation, dans la lecture du Coran. Et le plus important, c'est le Fatiha, parce que comme on dit, ça on lit tout le temps. Donc aujourd'hui, on a vu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a compris la connotation ajib dans Rahman ar-Rahim, le très clément. Quand on a An, ça veut dire que c'est quelque chose d'intensif. Et Allah, sa clémence, elle est, on pourrait dire, intensive. C'est-à-dire, Allah est très clément. Sa Rahman est sans limite. Wa rahmati wa si'at kulla shay. Et quand on a Rahim, quand on a fa'il, un mot qui va en im, comme ça, c'est-à-dire que ça parvient. Là, c'est la richesse, la beauté aussi de la langue arabe qu'on retrouvera dans aucune autre langue. D'accord? Et donc, ça veut dire que la rahmat d'Allah, elle parvient. Elle arrive sur ses créatures. Et il y avait d'autres choses à dire, mais on ne peut pas tout résumer aussi en 15 minutes. Et à travers la création, à travers plein de choses, nous voyons la manifestation de la clémence d'Allah. Dans les textes, il y a les versets qui prouvent qu'Allah est clément. Et dans la vie de tous les jours, nous voyons la clémence d'Allah dans toutes les situations. La bonté, la générosité, comment Allah aime ses créatures. Donc là, on a compris, Bismillah, ça veut dire quoi? Je commence par le nom d'Allah, mais exclusivement, on commence direct par Bismillah, sans mettre le verbe qui est sous-entendu. Bismillah, je commence par Allah, le très clément, le très miséricordieux. Et donc, on a vu, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et demain, on va voir très rapidement Ar-Rahman Ar-Rahim, sachant qu'on a déjà vu dans Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Et on va surtout voir, Inch'Allah, si Allah nous donne la possibilité, et faites droit qu'Allah nous accorde la santé pour pouvoir essayer de reprendre un peu plus. On va voir, Inch'Allah, Maliki Yawmiddin. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères. Le but, vraiment, même si on fait un verset par jour, c'est vraiment comprendre. Quand on ressent, on comprend qu'est-ce qu'on lit dans la salah, même un verset par jour, c'est un enrichissement. Si en cette soirée, en cette nuit, on peut couvrir Al-Fatiha en entier, Alhamdulillah. En une semaine, j'ai peut-être appris ce que je n'ai pas appris avant. En une semaine, je connais Alhamdou, le sens profond, afin que quand je lis dans la salah, je suis concentré. Qu'Allah nous accepte, notre tawfiq de comprendre. de mettre en pratique. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.